Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
9h-10h,
Arlette Chabot.
Bonjour, comment répliquer à la stratégie de Vladimir Poutine? La négociation, les sanctions, peut-on encore éviter une partition de l'Ukraine? Réponse d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui publie « La France au défi », c'est son regard sur notre pays, un appel aux réformes. La révolution est en marche, le gouvernement veut développer la filière de la robotique de service. La France a déjà des champions, vous entendrez Bertin Naoum, son entreprise crée des robots au service des chirurgiens. Nicolas Sarkozy, enregistré, écouté la dure semaine de l'ancien président et de la droite avec le politologue Thomas Guénolet. Nous ferons un état des lieux après les tempêtes. Comment être bien quand tout va mal? C'est le power patate de Florence Servan-Schreiber. Nos super pouvoirs, nos hyper pouvoirs et les professeurs de bonheur, on en a besoin.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
9h-10h,
Arlette Chabot.
François Hollande qui recevait hier l'opposant Vitali Klitschko, candidat à l'élection présidentielle en Ukraine, a confirmé l'opposition de la France à l'organisation d'un référendum en Crimée sur son rattachement à la Russie. Il a confirmé aussi son souhait de continuer à parler avec le président russe.
Notre objectif, c'est aussi de laisser toujours ouverte la voie du dialogue, de manière à ce que la Russie puisse saisir, autant qu'il sera décidé à le faire, je parle ici du président Poutine, la perche qui peut lui être tendue.
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
On va parler de votre livre « La France au défi » dans un instant, mais bien sûr, je ne peux pas ne pas évoquer avec vous l'Ukraine. Il a raison, François Hollande, de dire qu'il faut jouer sur les deux registres, à la fois, bien sûr, s'opposer à l'idée de ce référendum en Crimée et en même temps ne pas rompre le fil de la discussion avec Poutine.
En tout cas, il a raison de parler de dialogue. Je ne sais pas si les Occidentaux sont en mesure d'empêcher l'organisation d'un référendum en pratique. Mais en tout cas, parler de dialogue avec la Russie, oui, c'est peut-être ce qui n'a pas été formidablement bien géré par les Occidentaux en général depuis la fin de l'Union soviétique. En 1991, je rappelle au passage que la vraie date, ce n'est pas l'histoire du mur, la chute entre guillemets, mais c'est la fin de l'URSS fin 91. Donc c'est à partir de 92 qu'il y a cette situation qui n'a pas forcément été tout à fait bien gérée. Donc dialoguer, oui, bien sûr. Dialoguer sur quoi? D'abord, il y a la question de la désescalade par rapport à la situation actuelle, parce qu'évidemment, aux menaces de sanctions occidentales, la Russie va répondre inévitablement par des contre-mesures ou des menaces d'autres sanctions. Et puis alors, il y a l'engrenage sur le terrain, le vote, que la Russie n'est pas forcément obligée d'accepter automatiquement le désir de rattachement. Ça peut se conclure aussi par une autonomie très, très importante de la Crimée, qui historiquement a plutôt été russe d'ailleurs. Bon, mais le dialogue, à mon avis, devrait porter aussi sur l'avenir. Quelle solution a-t-on pour l'Ukraine dans la durée? Et moi, il me semble que c'est un pays quand même objectivement divisé, que obliger l'Ukraine à choisir tout entière d'être d'un côté ou de l'autre, ça ne marche pas bien.
Donc c'est-à-dire, soit l'Union européenne, soit la Russie, c'est
oui,
ça
le choix. Ça, soit l'union que veut reconstituer Poutine, qui marchera de toute façon pas très bien. Mais bon, donc les obliger à choisir, c'est compliqué, ça avive les tensions entre eux, et qu'il faudrait aller, si c'était possible, hein, mais peut-être que la logique de l'escalade va l'emporter malheureusement, il faudrait aller vers une Ukraine fédérale, avec une véritable autonomie, de vraies garanties données aux minorités. Les minorités russes en Crimée sont majoritaires, russophones, elles sont importantes dans l'est de l'Ukraine, ou alors tatars, qui est une minorité dans la Crimée presque russe, vous voyez. Donc des garanties sur ce plan, peut-être déclarer clairement que l'Ukraine n'a pas vocation à entrer dans l'OTAN, alors que les Américains, ça c'est pas nous qui avons fait cette faute, mais les Américains longtemps ont dit l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN, ce qui évidemment d'un point de vue russe c'est agressif. Et puis
Poutine,
en plus,
ouais.
Bush père et James Baker avaient à peu près promis à Gorbatchev que ça n'aurait pas lieu. Évidemment, il faut renoncer du côté russe à l'utilisation de la force, en tout cas même l'intimidation, même la menace de l'emploi de la force. Et je dirais donc une Ukraine finlandisée, comme était la Finlande pendant l'époque Est-Ouest, qui était totalement libre sur le plan du régime économique et social et des libertés, mais qui simplement devait ne pas attaquer la politique étrangère russe. Donc, alors j'ai vu depuis d'ailleurs que Kissinger et Brzezinski, qui ne sont pas des tendres par rapport à Poutine, hein, défendaient une thèse de ce genre. Mais c'est un objectif. Évidemment, ce n'est pas simple d'aller vers ça à partir de la situation actuelle. Donc l'urgence, c'est la désescalade si on peut.
Alors, Hubert Védrine, vous qui regardez Le Monde, qui parcourez Le Monde, vous publiez La France au défi. Vous intéressez à la France et le premier chapitre de votre livre, c'est Péril en la demeure. C'est-à-dire que vous intervenez dans le débat français parce que vous vous dites la situation est très grave.
Oui, à force de voyager partout, sur toutes les situations que j'ai connues, j'ai fini par ne pas comprendre en réalité ce pessimisme français incroyable, très profond. Les Français sont plus pessimistes sur l'avenir de leur pays que les Afghans ou les Irakiens sur l'avenir de leur propre pays. Donc il y a quand même un bug quelque part. Et pourquoi ce manque profond, morbide presque, de confiance en soi, alors que la France, dans le passé, a réussi des rétablissements tout à fait extraordinaires, comparé 1940 et 1945, beaucoup de choses. Et donc ça m'a intéressé. Donc j'ai étudié ce renfermement, les différentes sources de ce pessimisme, qui sont économiques, mais aussi psychologiques, ou bien une sorte de vexation d'un pays qui pensait être au centre de tout et qui doit tout négocier, ou l'idée qu'on se faisait de l'Europe, qui devait être une France en plus grand. C'est pas comme ça que ça marche. Bon. Beaucoup de choses, plus la manie de la repentance depuis une vingtaine d'années sur 36 jugés. Je suis à fond pour la lucidité historique, faut pas confondre. Enfin, tout ça se mélange. Et je me suis demandé pourquoi on adorait donner les leçons au monde entier sans en recevoir de personne, pourquoi on voulait pas étudier ce qu'il y a d'intéressant dans les réformes faites chez les autres Européens, à peu près tous. Presque tous les autres Européens, à part deux ou trois pays. Et je me suis demandé s'il y avait un cheminement, un fil d'Ariane, pour sortir de cet enfermement qui nous paralyse, puisque nous ne sommes pas pessimistes à cause de nos handicaps, puisqu'on a un potentiel immense, mais on est handicapé par notre pessimisme. C'est l'inverse.
Et c'est une grande dépression française, on en parle depuis longtemps, et aucun responsable politique n'a réussi à nous guérir, droite ou gauche confondue.
Oui, plusieurs ont essayé, mais on voit bien que faire les réformes que pourtant ont fait une bonne quinzaine de pays en Europe, c'est extrêmement difficile pour la droite seule et pour la gauche seule, peut-être encore plus dur pour la gauche. Et c'est cruel pour la gauche d'avoir à faire maintenant ce que la Commission nous rappelle que nous devons faire, mais c'est pas la Commission qui a inventé ça pour nous embêter, hein. Ni les Allemands, c'est nous qui avons conclu qu'il fallait le faire pour ramener le poids de l'État-providence, qui est une nécessité, personne ne veut revenir dans un monde à la Zola, mais il faut que ce soit économiquement gérable. Bon, donc c'est extrêmement difficile. Donc, il faut peut-être trouver une autre façon d'avancer.
On va venir au chemin que vous proposez. Mais vous dites, au fond, cette dépression qui contamine aussi nos dirigeants, c'est ce que vous appelez un système autobloquant. Vous dites que toutes les tentatives de réforme s'enlisent dans un marécage politico-corporatisto-judiciaro-médiatique. C'est-à-dire qu'en gros, on arrête tout parce que ça passe plus, ça passe pas.
Oui, puis il y a une telle excitation, c'est de plus en plus difficile de débattre sereinement et calmement de comment il faudrait faire, les avantages, les inconvénients, la feuille de route, et puis ça donnera des résultats positifs dans 3-4 ans. C'est un monde tellement immédiat, excité, hystérisé. C'est pour ça qu'il y a plusieurs éléments que vous citez, y compris le médiatique qui est à la fin. Enfin, disons, la partie du système médiatique, c'est moins vrai de la presse écrite. Il me semble que c'est pas vrai du travail que vous faites vous-même, mais qui se croit obligé de réagir de façon instantanée à une chose qui a été dite il y a 3 minutes. Bon. L'urgent chasse l'important, comme disait René Char, vous voyez. Donc il faudrait essayer de sortir de là, mais il y a beaucoup de choses à faire de la part du monde politique lui-même. Il y a une sorte de redressement.
Vous dites qu'il faudra un électrochoc. Il n'y a pas eu lieu l'électrochoc. L'élection de François Hollande, il n'y a pas eu d'électrochoc. Au contraire, vous dites qu'il y a des réformes indispensables, nécessaires, urgentes, essentielles, et on ne pourra pas y échapper. Mais on est dans des réformes à minima quand on les fait.
L'équipe actuelle n'a pas rien fait. Par exemple, l'accord sur la flexibilité négocié par Michel Sapin, c'est quelque chose d'important qui n'avait pas eu lieu pendant les 10 années de la droite, quand même, vous voyez. D'autre part, ce qu'a annoncé François Hollande le 14 janvier est très important. Alors ça reste, vous me direz, à concrétiser, mais c'est quand même très, très important. L'électrochoc qui pourrait découler des chiffres, si les gens voulaient bien lire les chiffres et ne pas être sans arrêt dans le déni ou la chimère ou l'idée qu'on va faire autre chose ailleurs. L'autre politique est toujours une tentation, bien sûr.
Ils sont là, les chiffres. Cette semaine en cours, la Commission européenne nous met sous surveillance.
Donc, son rôle.
Il y a le déficit,
elle
c'est terrible.
Elle fait ça pas parce qu'elle est abusive, mais parce que c'est le rôle qu'on lui a confié.
Donc, on doit être. On est encore dans le déni, ou en tout cas, on cherche des excuses ou des échappatoires.
À gagner du temps,
Donc, il faut que les politiques aient ce langage de vérité, de courage et entraînent vers les réformes.
Ils l'ont un peu, mais pas complètement. Et pourtant, il me semble qu'il y a quasiment une majorité dans l'opinion qui est disponible pour ça. Parce qu'en permanence, on voit les acteurs du jeu que vous avez rappelé ne pas avancer parce qu'il faudrait faire ça, mais on ne peut pas parce que. Et en même temps, des sondages qui montrent une disponibilité très grande de l'opinion. Donc je pense qu'il y a la possibilité d'avancer malgré tout.
Alors, vous proposez.
En tout cas, j'aimerais y contribuer par ça.
Voilà. On comprend ce livre. Et alors, vous proposez une coalition pour la réforme. Oui. Alors ça, c'est quoi? C'est un gouvernement d'union nationale, des bonnes volontés, des audacieux?
Non, ça serait trop naïf. Ça. D'ailleurs, je ne crois pas du tout à l'union nationale. On n'est pas, c'est pas la guerre mondiale. Hein. Je ne crois pas non plus aux coalitions à l'allemande qui découlent largement de leur mentalité, mais surtout de leur système électoral. Les cohabitations qu'on a connues en France, c'est autre chose. Et puis, c'est trop antagoniste. Et en revanche, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible sur quelques réformes clés, pour un temps limité? Il ne s'agit pas de se convertir à une théorie économique pour 30 ans. Hein. Il s'agit de sortir d'une situation où on est embourbé, là, maintenant. Bon, est-ce que ça ne serait pas possible de se mettre d'accord sur quelques réformes clés? Comme après tout, dans l'histoire de France, depuis quelques dizaines d'années, on a su mener à travers la gauche et la droite des politiques d'aménagement du territoire, d'infrastructures sur le territoire français, et ça, on est un des pays au monde les mieux équipés. Sur ce plan, la politique familiale, la politique étrangère pendant longtemps, les politiques de défense.
On met dans le même gouvernement.
C'est pour dire que ça n'a pas été impossible.
Non, donc on peut demain, dans un gouvernement ou dans des commissions, travailler ensemble dans l'intérêt général?
On ne peut pas mettre tout le monde dans le gouvernement, ce serait n'importe quoi, et ça ne marcherait pas, et puis le système, le jeu politique n'est pas fondé là-dessus. Mais vous pourriez avoir l'approbation par l'opposition du moment. Là, c'est François Hollande et un gouvernement de gauche, je dirais la même chose si c'était l'inverse. Hein. L'opposition se grandirait en disant sur tel et tel sujet, telle ou telle réforme clé, je la vote, même si je combats globalement ce gouvernement, et nous aurons des candidats à la prochaine élection, etc. Mais là-dessus, on le vote parce qu'il faut sortir le pays de l'ornière. Pourquoi est-ce que ça serait impossible? Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'empêchement?
Parce que ce n'est pas dans l'esprit français. Oui, on est dans le combat, la bataille, il y a des élections qui arrivent.
D'accord, mais j'ai donné des exemples de politiques qui avaient été poursuivies comme ça, et dans la plupart des pays d'Europe qui se sont réformés, ça a été lancé par la gauche, poursuivi par la droite, ou l'inverse. Donc ça ne me paraît pas complètement utopique, même si je sais très bien que c'est difficile. Que j'aimerais contribuer à cette réflexion.
Merci. En tout cas, c'est une réflexion intéressante sur effectivement les blocages de la société française, ce malaise. Hubert Védrine, la France au défi, c'est chez Fayard. Tout de suite, la robotique, on est des champions.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Arlette Chabot.
Et cette semaine, justement, Arnaud Montebourg a annoncé la création d'un fonds d'investissement Robolution Capital dédié à la filière de la robotique des services. La France est en retard sur l'utilisation des robots et la filière est aussi méconnue parmi les idées reçues. Il y a celle selon laquelle des robots, c'est mauvais pour l'emploi. Faux dit Axel de Tarlet.
En Allemagne, par exemple, l'industrie agroalimentaire est extrêmement robotisée avec des machines qui trient les produits, les emballent, les expédient. Et c'est comme ça que les entreprises allemandes nous taillent des croupières et prospèrent et embauchent, alors que les nôtres qui ne sont pas robotisées ferment et licencient.
Voilà, c'est dit. Bonjour Bertin Naoum.
Bonjour.
Alors avant de revenir sur ce plan Montebourg, on va parler de vous parce que vous avez créé à Montpellier une PME, MedTech, d'assistance robotique à la chirurgie. Et vous avez été classé 4e entrepreneur le plus révolutionnaire du monde, derrière Bill Gates, Mark Zuckerberg et James Cameron. Alors évidemment, ça n'est pas rien. On commence par le commencement. Dites-nous comment ça marche, comment un robot peut aider un chirurgien?
C'est un espèce de GPS de chirurgien qui va guider la main du chirurgien dans des opérations relativement sensibles, telles que des opérations du Parkinson, pour le traitement de la maladie de Parkinson, l'épilepsie.
À quoi sert le robot? Comment il est utilisé par le chirurgien? Dites-nous.
Le chirurgien va pouvoir planifier son acte chirurgical sur des images de type IRM et scanner. Et ensuite, le robot va tout simplement l'empêcher d'atteindre des zones risquées et au contraire sécuriser son geste pour atteindre des zones précises et sensibles du cerveau.
Donc on l'utilise dans beaucoup d'hôpitaux dans le monde. Combien aujourd'hui utilisent ce robot?
C'est une technologie qui a été lancée et mise au point il y a à peu près 4 ans. Après 4 ans, on a une vingtaine d'hôpitaux qui nous ont déjà fait confiance en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada et même en Chine. Plus de 1500 patients ont été opérés à ce jour.
Est-ce qu'il est difficile, quand on est innovant, d'être reconnu en France d'abord?
La première chose, c'est que la France est une terre d'innovation. Là où parfois, effectivement, on a plus de difficultés, c'est ensuite transformer, je dirais, ces projets innovants en entreprises qui vont générer de la richesse, qui générer de la valeur et surtout générer de l'emploi.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où, crucial, difficile, quand il faut se développer.
Les entreprises innovantes sont confrontées en France à un problème qui est plus général à l'ensemble des entreprises, des PME françaises, qui est la difficulté d'avoir accès en fait à des capitaux qui sont nécessaires pour investir, pour se développer, pour croître. Et donc cette question est effectivement encore plus prégnante lorsqu'il s'agit d'entreprises innovantes.
Cette semaine, donc, Arnaud Montebourg lance le fonds Robolution Capital. On met 80 millions d'euros pour démarrer dans la balance, financement privé et financement public. Ça va dans le bon sens? Ça répond aux besoins de financement de jeunes entreprises?
Au travers de ce fonds, c'est toute la filière de la robotique qui va voir en face d'elle des solutions financières qui vont permettre à ces entreprises de croître et puis de faire émerger filière de la robotique, puisque la robotique est un vrai domaine d'excellence en France.
En même temps, on va dire 80 millions d'euros, c'est pas assez.
C'est jamais suffisant, on aimerait toujours avoir plus, mais je pense que ça correspond néanmoins à une initiative extrêmement importante. Il faut savoir qu'on part d'une situation où on n'avait pas de fonds dédiés à la robotique, et je suis absolument convaincu que au travers donc de ce fonds, je dirais c'est un certain nombre de projets extrêmement importants qui vont pouvoir émerger.
Comment vous avez fait, vous, pour faire grandir votre société ?
Alors nous, on est passé par plusieurs phases. On est passé par une première phase à laquelle, justement, beaucoup de sociétés innovantes sont parfois confrontées. C'est la phase où on a dû céder un portefeuille de brevets à un groupe américain, précisément, faute d'avoir trouvé les moyens de pouvoir, je dirais, mener à terme notre projet. Et on a ensuite décidé de réinvestir le fruit de cette transaction dans un programme de recherche. Et c'est comme ça que notre robot Rosa, pour la chirurgie du cerveau, est né. Aujourd'hui, la société a grandi. On vient de rentrer en bourse depuis quelques mois. La société Medtech est maintenant une société cotée. Et on a les moyens, je dirais, à nos dispositions pour faire grandir la société et rester résolument en France.
On est assez ignorant dans ce domaine de la robotique des services. En fait, ça couvre un secteur très large.
C'est vrai que lorsque l'on parle de robotique, on pense plus spontanément aux androïdes, effectivement, et ça éveille un petit peu l'imaginaire des films de science-fiction. Mais la robotique, en fait, couvre des domaines extrêmement variés, tels que, par exemple, la robotique agricole, la robotique industrielle, ludique, et bien sûr la robotique médicale et la robotique chirurgicale.
Pourquoi on est aussi bon en France ?
Parce qu'on a une tradition dans le domaine de la robotique qui est portée par de nombreux laboratoires de recherche et parce que la robotique est un secteur qui allie finalement, je dirais, de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique et qui sont tant de domaines dans lesquels on a d'excellentes écoles d'ingénieurs et donc on est capable de s'appuyer sur une créativité, sur des gens qui ont des savoir-faire dans tous ces domaines qui sont absolument indispensables pour faire émerger des projets de robotique.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui répètent en boucle que des robots suppriment des emplois ?
Ça correspond à une vision peut-être un petit peu réductrice de ce qu'est la robotique. C'est vrai que ce à quoi peuvent penser ces personnes-là, c'est ce qu'on a pu appeler la robotique industrielle, qui effectivement dans certains cas a remplacé, je dirais, certains emplois. Mais il faut bien comprendre que la robotique, c'est bien au-delà des robots chirurgicaux. En aucun cas, on a vocation à remplacer des chirurgiens, des médecins ou même des infirmières, mais au contraire, on a vocation simplement à fournir une assistance de façon à opérer, de façon à traiter les patients avec plus d'efficacité.
Alors cette semaine, le patient qui avait été opéré et qui vivait grâce au cœur artificiel Carmat est mort. Est-ce qu'il faut le prendre comme une mauvaise nouvelle ou de toute façon comme un épisode sur un chemin très positif pour les malades ?
Moi, je pense que tout d'abord, il faut sincèrement rendre hommage aux patients et à la famille de ce patient qui était apparemment pleinement conscient des enjeux et qui ont fait confiance aux médecins et à la technologie révolutionnaire de Carmat et qui, ce faisant, ont apporté une contribution pionnière à la médecine de demain. Ensuite, moi, je tiens vraiment à souligner, je dirais, le caractère exceptionnel de cette invention de Carmat qui vise rien d'autre que à proposer à des patients un cœur artificiel, des patients qui sont en général dans des situations assez critiques, sont parfois en attente de greffe, leur proposer un cœur artificiel, rien de moins. Et ça, je pense que c'est effectivement absolument extraordinaire.
Alors, est-ce que vous diriez, pour terminer, comme Bruno Bonnet, le fondateur d'Infogrames et l'artisan du plan d'aide et du financement des robots, c'est la robolution qui est en marche en France ?
Je pense qu'effectivement, il y a une révolution, il y a une prise de conscience. Je crois qu'il y a une prise de conscience, d'une façon générale, de nos atouts, de nos forces et de nos capacités dans le monde du 21e siècle de jouer une carte, la carte de l'innovation, de la créativité au travers de la robotique.
Vous êtes bientôt le numéro 1 dans le monde, Bertrand Naoum.
Alors, on a encore un petit peu de chemin, mais enfin, en tous les cas, nos équipes travaillent au quotidien ardemment à développer des solutions encore et toujours plus efficaces au service des patients et des chirurgiens.
Ça veut dire que vous avez encore un autre projet, vous êtes en train de concevoir un autre robot, c'est ça?
Tout à fait. Alors, on a commencé à la création de la société dans le domaine de la chirurgie du genou. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la chirurgie du cerveau et depuis quelques mois, nous avons étendu l'utilisation de nos robots à la chirurgie de la colonne vertébrale. La chirurgie de la colonne vertébrale, le mal de dos, c'est le mal du siècle, comme on le sait. Et donc, effectivement, il y a de très très nombreux enjeux et solutions à apporter pour soigner les patients qui souffrent du dos.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes aux États-Unis pour vendre votre robot, j'imagine.
Tout à fait, effectivement. Les États-Unis sont un marché extrêmement important pour nous et en tout cas, en tant que société française, on veille à y être présent.
Merci Bertin Naoum qui était à New York. Dans un instant, la tempête, avis de tempête. Force combien? 9, 10, 11, peut-être plus sur l'UMP.
9h-10h sur Europe 1.
C'est arrivé cette semaine. Arlette Chabot.
Tempête sur la droite, soupçon sur Jean-François Copé, puis révélation sur Patrick Buisson, le conseiller du président de la République, Nicolas Sarkozy, avait écouté le président lors de réunions confidentielles et secrètes à l'Élysée. Réaction de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, Roselyne Bachelot, Henri Guénaud et Nathalie Kosciusko-Morizet.
Il y a de quoi tomber de sa chaise. J'ai vu pas mal de choses. Ça, j'ai jamais vu ça. Écouter quelqu'un à son insu, c'est d'une extrême violence.
Le dégoût devant un conseiller qui trompe la confiance du président de la République, qui le trahit.
Nous vivons tous cet événement comme une sorte de viol.
Pour dire qu'on a été trahi, il faut avoir fait confiance. Moi, je faisais pas confiance. Je peux pas dire que j'ai été trahi.
Et puis, révélation hier du journal Le Monde, Nicolas Sarkozy et son avocat écoutés par les magistrats soupçonnés de trafic d'influence. Son avocat Thierry Herzog, indigné hier sur BFM.
Je ne suis pas un homme politique. Je suis un avocat. Un avocat qui est meurtri, qui est scandalisé et qui dit ce soir devant vous qu'il s'agit d'une affaire montée de toutes pièces.
Bonjour Thomas Guénolé.
Bonjour.
Vous êtes politologue maître de conférence à Sciences Po. Vous avez publié il y a quelques mois Nicolas Sarkozy, chronique d'un retour impossible. Point d'interrogation. Alors ce matin, après cette semaine, vous gardez le point d'interrogation ou vous retirez le point d'interrogation?
Alors, je pourrais retirer en réalité le point d'interrogation parce que le retour est impossible dans la vie politique pour Nicolas Sarkozy, pour une raison très simple, il n'est jamais parti.
Voilà.
À un moment donné, il faut lancer un appel aux différents médias. Quand un homme politique arrête de s'exprimer directement et passe à une parole indirecte, notamment par Brice Hortefeux interposé, ce n'est pas une disparition de la vie politique, c'est une stratégie de communication indirecte.
Alors, si on regarde la semaine, Thomas, au fond, comme le dit mon amie Catherine Ney, Nicolas Sarkozy a été volé, selon l'expression du point, par Copé, violé, comme le dit Henri Guénaud, par Patrick Buisson et aujourd'hui pourchassé par les juges. C'est la victime de la semaine.
Alors, juste une remarque sur la métaphore du viol. Je voudrais signaler que la fameuse expression « écoutez, c'est comme un viol », non, un viol, c'est comme un viol. Il faut faire attention aux métaphores qu'on emploie. Ça, c'est un premier point, c'est une parenthèse. Ensuite, victime de la semaine, en tout cas, attaqué de la semaine. J'ai du mal à voir Nicolas Sarkozy comme une victime, principalement parce que s'il y a une qualité qu'on ne peut pas lui enlever, c'est la combativité. En revanche, effectivement, il y a eu une accumulation assez épouvantable, mais qui, chaque chose peut paradoxalement être une bonne nouvelle, je m'explique. Pour l'affaire Copé, si les faits sont avérés, alors, ça voudrait dire que les dépassements des plafonds de campagne qui étaient jusqu'à présent de la responsabilité politique de Nicolas Sarkozy, il l'a dit lui-même, ça serait de la responsabilité de Jean-François Copé. Donc Nicolas Sarkozy serait disculpé en quelque sorte de la nécessité du sarcoton. Ensuite, vis-à-vis du scandale Buisson, c'est un Watergate à l'envers, puisque cette fois-ci c'est le président qui était sur écoute d'un de ses collaborateurs et non pas le contraire.
C'est original ça.
C'est original, oui, effectivement. Le Watergate à la française se passe dans l'autre sens en réalité. Mais Nicolas Sarkozy, le dépôt de plainte, est en train de reprendre la main et va probablement obtenir gain de cause, je pense. En tout cas, ce serait légitime, puisque ce sont des conversations enregistrées à son insu, ce qui, en France, est un délit, je le rappelle. Et donc, il devrait assez rapidement reprendre la main sur cette situation-là et donner l'impression, comme dans l'affaire Bettencourt, qu'en réalité, quand il décide de se confronter à un problème, il le règle assez rapidement. Donc, ce serait plutôt bon pour son image, en réalité, mais désastreux pour celle de son entourage. Et enfin, l'affaire qu'il y a eu vendredi, c'est très incertain par définition. En revanche, j'attire l'attention donc des auditeurs sur une méthode qui est toujours la même pour Nicolas Sarkozy quand il est mis en cause par des juges d'instruction, c'est qu'il organise le procès médiatique des juges d'instruction. Alors le procès médiatique, mais façon Nicolas Sarkozy, voilà comment ça marche. Les procureurs, ce sont les médias qui relayent les thèses de Nicolas Sarkozy mettant en cause l'impartialité des juges d'instruction, enquête à charge, complot judiciaire, etc. Le jury, c'est l'opinion publique en général et les électeurs de droite en particulier, qui sont plutôt, a priori, du côté de Nicolas Sarkozy, mais réservent dans un premier temps leur jugement. Et il n'y a pas d'avocat de la défense, bien entendu, et les accusés, ce sont les juges d'instruction. Demandez à M. Gentil comment ça s'est passé pour lui. Le procès médiatique, c'est la réponse de Nicolas Sarkozy aux instructions judiciaires et aux fuites aux demeurants scandaleuses dans les dossiers d'instruction.
Oui, mais après, quand Nicolas Sarkozy est mis hors de cause dans l'affaire Bettencourt, finalement, tout le monde se félicite que la justice fonctionne bien.
C'est le grand paradoxe de la communication de Nicolas Sarkozy et de son entourage, c'est que quand la justice est contre eux, c'est un complot, et quand la justice les blanchit, ça veut dire que le système judiciaire fonctionne. En réalité, Jean-François Copé, d'ailleurs, avait à peu près la même communication, c'est de dire, c'est un complot, on cherche à m'abattre et à travers moi à battre la droite. Juste avant les municipales, c'est suspect. Je rajoute que cet argument-là, juste avant les municipales, vous savez, on est toujours en pré-campagne électorale en France puisqu'on a des élections tous les deux ans.
Thomas Guinollet, est-ce que ces affaires diverses, parce qu'elles ne sont effectivement pas de même nature, vont accélérer le retour de Nicolas Sarkozy ou vont ralentir ses perspectives de retour, ralentir son calendrier ?
Alors, pas forcément le ralentir, parce que si on prend l'exemple de l'affaire Bettencourt, il n'avait manifestement pas, de toute façon, l'intention d'accélérer son retour dans ce calendrier-là. Non, le problème que
mais
ça
là,
pose...
Mais là, on est après les municipales, après les européennes, on disait, ça y est, il se met en marche.
Cette fois, oui. C'est-à-dire que, en réalité, comme pour l'affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy a besoin de lever l'hypothèque des pressions judiciaires dont il fait l'objet pour pouvoir accélérer et conclure finalement son retour gagnant en politique. En fait, il faut penser à Damoclès. C'est-à-dire que, mais un Damoclès dans une situation encore plus périlleuse, puisque Nicolas Sarkozy il a quatre épées de Damoclès au-dessus de lui en réalité. Il a l'affaire Kadhafi, il a l'affaire Karachi, il a l'affaire Tapis-Lagarde et il a l'affaire des sondages de l'Élysée. À tout moment,
Patrick Buisson.
Oui, à tout moment en fait, on peut avoir. Il est dans une insécurité politique permanente par rapport à sa stratégie de retour du fait de ses quatre épées au-dessus de sa tête.
Oui, donc vous ne répondez pas à ma question. Il accélère ou il accélère pas en fonction de ce calendrier des affaires ou là, comme il est visé, il a envie de combattre et de répondre.
Ralentissement, c'est-à-dire que tant qu'il est dans l'accaparement sur les problèmes judiciaires, il est obligé de ralentir son retour en politique. Cela étant, paradoxalement, la chose qui peut être une bonne nouvelle, c'est que plus des affaires sont évacuées, liquidées en quelque sorte, avant 2016, moins il y a de chances qu'il lui arrive quelque chose comme Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire l'affaire qui éclate vraiment au mauvais moment, et c'est trop tard pour s'en relever.
Alors, l'affaire de Buisson est d'une autre nature, mais surtout, elle pose la question de la ligne politique, parce que, on a entendu, tout le monde est tombé sur Buisson. Tous ceux qui contestaient la ligne politique qui était la sienne et qui n'a toujours pas fait l'objet d'un débat au sein de l'UMP. Alors, est-ce que la ligne Buisson est écartée, comme va être écarté le l'ex-conseiller ?
Alors, c'est une bonne chose que vous fassiez la distinction entre le sort de Patrick Buisson et celui de la ligne Buisson. Concernant Patrick Buisson, c'est vae victis, malheur au vaincu. Donc là, c'est l'alali, littéralement. Patrick Buisson, il est probable qu'il ne se relèvera pas à titre personnel dans son activisme politique de cette affaire. En revanche, la ligne Buisson, ce qu'on appelle la ligne Buisson, en fait, c'est une version radicalisée de la ligne Pasqua jadis, en réalité. Il y a quatre droites actuellement en France, pas celle de René Raymond, quelque chose de plus actuel, c'est-à-dire la droite gaulliste, la droite libérale, la droite moraliste ou contre 68arde, et la droite sécuritaire. La droite sécuritaire, c'est-à-dire être d'accord avec les diagnostics du FN sur l'état de la société, elle survivra à Patrick Buisson parce qu'elle est structurelle dans le cocktail des quatre droites. Donc,
il y a la stratégie politique. Est-ce qu'on va justement surmarcher ou tendre des perches entre guillemets à ceux qui pourraient être séduits par le langage le plus radical, les propositions les plus radicales ou pas ? C'est ça qui devrait être tranché, la stratégie.
Alors, il y a une divergence, une fracture profonde dans l'état-major de l'UMP là-dessus. Vous avez d'un côté ceux qui adhèrent à ce qu'on appelle la ligne Buisson, et puis vous avez ceux qui ne sont absolument pas d'accord avec cette ligne-là. Et d'ailleurs, après les européennes, si d'aventure un séisme politique se produit pour la droite vis-à-vis du Front National, il n'est pas exclu qu'il y ait une révolution de palais à la tête de l'UMP pour favoriser quelqu'un comme Alain Juppé par rapport à quelqu'un comme Jean-François Copé à la tête de l'UMP.
Comme on dit de façon très originale, à suivre. Merci Thomas Guénolet qui venait de publier par ailleurs le petit guide du mensonge en politique. Chez First, ce document, on ne va pas en parler ce matin parce que je pense que là, on a notre dose. Merci beaucoup Thomas d'être venu. On va chercher le bonheur maintenant avec Florence Servan-Schreiber.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
9h, 10h,
Arlette Chabot.
En cherchant bien, on a trouvé deux bonnes nouvelles cette semaine. Le retour du soleil, c'est presque le printemps, et puis la victoire de l'équipe de France de football. Il nous fallait ça. Bonjour Florence Servan-Schreiber.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de bonheur. On s'est dit qu'après une actualité comme celle qu'on vient d'entendre développer par ceux qui vous ont précédé, il fallait souffler. Vous publiez Power Patate. Qu'est-ce que c'est le Power Patate ?
Power Patate, ce sont des moments pendant lesquels nous sommes dans une énergie, on peut dire ça comme ça, extrêmement centrée. C'est quand on fait des choses qu'on aime vraiment faire. Pour certains, ça peut être de cuisiner. Pour certains, ça peut être de lire. Pour certains, ça peut être d'avoir un bébé dans les bras, peu importe. Mais dans ces moments-là, on se sent vraiment bien. Et c'est ça, Power Patate. Parce que quand on comprend comment on peut activer ça chez soi, puisqu'il y a différentes parts de nos personnalités, dont on peut se servir pour justement se sentir le mieux possible. Et c'est vrai que quand on entend tout ce qu'on entend autour de nous, quand on écoute ne serait-ce que les informations de ce matin, parfois on a vraiment besoin de savoir comment on peut juste se sentir mieux, que la vie soit agréable, et on part de soi.
Alors, les super-pouvoirs, nous avons des super-pouvoirs, on est tous des super-héros presque.
Alors oui, dès lors que nous utilisons qui nous sommes à bon escient. Voilà, c'est-à-dire que il y a des gens par exemple qui sont extrêmement râleurs, qui vont vous dire moi je suis comme ça, je peux pas faire autrement. Alors si on regarde quelqu'un par exemple comme Jean-Pierre Bacri, quand il utilise sa capacité à râler à bon escient, en effet c'est efficace, ça devient un super pouvoir. Mais si c'est juste râler pour râler, ça n'en est pas un.
Donc comment on trouve ces points forts? Comment on sait qu'on est bon, nos qualités, nos talents, comme vous dites? Comment on les trouve?
C'est pas si compliqué que ça. On regarde précisément ce qu'on aime faire, ce qu'on a aimé faire, ce qu'on a réussi. Vous prenez par exemple dans la semaine qui vient de s'écouler les trois moments où vous vous êtes vraiment senti bien et où vous avez eu l'impression de faire quelque chose, de le réussir. Et en faisant ça, c'est comme un miroir en fait. Quand on cherche son style d'action, c'est comme ça qu'on fait. Vous trouvez des points communs et vous vous rendez compte que peut-être vous étiez en train de vous occuper des autres. Et que c'est ça, votre super pouvoir, c'est de vous occuper des autres. Ou vous vous rendez compte que vous étiez en train d'inventer des choses, donc que vous étiez créatif. C'est un de vos super pouvoirs. Une fois de plus, ce sont des traits de personnalité tout à fait courants, sauf que, en fait, ce sont les vôtres.
Oui. On parlait tout à l'heure avec Hubert Védrine de la dépression française, mais quand on demande aux gens quelles sont leurs qualités, ils disent plutôt « je ne suis pas ».
C'est vrai.
Quand vous leur dites de quoi êtes-vous fier, ils vous disent « je sais pas ».
C'est vrai.
Donc on est tous dans le négatif.
C'est la première question que je pose, donc lorsque je suis face à des gens auxquels j'essaye d'apprendre comme ça quelques questions que l'on peut se poser, parce que la nature, en fait la question que l'on pose conditionne la réponse. Si vous vous demandez mais qu'est-ce qui ne va pas, évidemment vous allez trouver ce qui ne va pas. Mais si vous vous demandez justement qu'est-ce qui va et de quoi suis-je fière, ça c'est une très bonne question. Il n'est pas courant dans notre culture de nous décrire comme ça, de partir de ce que nous sommes et de ce que nous réussissons. Or, nous savons le faire. De quoi êtes-vous fier? Ça peut être un tout petit quelque chose. Et fier, ça ne veut pas dire que nous écrasons quelqu'un en face. Et c'est pour ça qu'il y a une confusion, c'est qu'on a l'impression que si je suis fier, c'est au détriment de vous. Alors que pas du tout, c'est simplement quelque chose qui m'a fait du bien. Mais c'est vrai, ça demande un petit effort.
Et ça, c'est une leçon pour l'UMP, hein. Il devrait vous engager, je pense. Après, les super pouvoirs, il y a les hyper pouvoirs.
Oui.
Alors ça, qu'est-ce que
c'est ? Alors, ça, ce sont des choses que nous pouvons tous apprendre et qui enrichissent la vie immédiatement. Il y en a un qui est de charmer. Nous avons absolument besoin de relations de qualité avec les autres. C'est ça qui conditionne la qualité de notre vie. Il n'y a pas d'autre chose. On a tout regardé, l'argent, le soleil, on a absolument tout regardé. Non, c'est la qualité des relations que nous entretenons avec les autres. Alors, c'est évident que si on a quelques petits trucs comme ça pour charmer, si on est timide, et la moitié des Français sont timides, donc ça déjà, c'est un hyper pouvoir. Il y en a un autre qui est de créer. Dès lors que nous fabriquons quelque chose, que quelque chose sort de notre tête, de nos idées, de nos doigts, on n'a pas besoin d'être artiste, bien sûr, on se sent vivant. Donc ça, c'en est un. Et puis, l'hyper-pouvoir ultime, c'est l'amour. Et quand on dit l'amour, c'est juste des moments très simples de connexion avec une personne en face de soi, comme on peut même à la radio, on peut être dans cette proximité avec des gens parce que...
L'intimité, vous dites
ça. Oui, c'est l'intimité, ça s'appelle de la résonance entre deux personnes. Et il faut savoir qu'à chaque fois que nous vivons un moment comme ça, mais ça peut même être avec son boucher en lui disant bonjour, en le regardant dans les yeux, eh bien, nous tonifions un air qui va déterminer notre longévité et notre état de santé. Donc c'est l'hyper-pouvoir absolu. Dès lors, nous sommes faits en fait pour nous relier aux autres et l'organisme est conçu comme ça. Donc dès lors que nous avons comme ça une sensation d'intimité avec quelqu'un, en fait on va vivre plus longtemps.
Vous souriez et vous dites que c'est important le sourire.
Mais c'est absolument important. Essayez de sourire, mais un vrai sourire, hein, celui qui engage tous les muscles du visage. Pas la grimace. Et d'avoir des idées noires. C'est incompatible. Incompatible, ça ne marche pas.
Donc il faut sourire. Alors il y a un mot qui revient beaucoup, en tout cas plusieurs reprises dans votre livre, c'est le mot gratitude.
Oui, ça c'est aussi un hyper pouvoir absolu, la capacité à s'émerveiller, tout simplement, et à se dire pour ça, pour quelque chose, pour un moment que je vis, quelque chose, ne serait-ce que le soleil, regardez, qui est évidemment présent ce matin, merci. Et une fois de plus, on s'est rendu compte que lorsqu'on sait faire ça, eh bien, on peut gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie.
7 ans d'espérance de vie.
C'est une émotion très particulière. Alors, évidemment, ça va améliorer notre santé, ça va nous permettre de vivre plus longtemps, mais imaginez bien, ça nous permet aussi de trouver dans une actualité aussi, aussi compliquée, les petites choses qui font qu'on se dit « mais non, c'est bien, il y a des choses dans ma vie et je trouve ce que je cherche là où je suis ». Au lieu d'essayer toujours d'aller voir plus loin, là où je vais pouvoir éventuellement le trouver.
Merci Florence Herland-Schreiber. Power Patate, c'est chez Marabout. Je peux exprimer ma gratitude aux auditeurs qui ont suivi cette émission ce matin. On se retrouve demain. Et tout de suite, Mediapolis, Michel Field, Olivier Duhamel. Bonjour les garçons.
Bonjour Arlette Chabot.
Bonjour chère Arlette. Eh bien, c'est dans 15 jours maintenant, les municipales.
Notre dossier, comment ça marche et ce qui a changé.
Mediapolis, c'est juste après les informations sur Europe 1. Arlette Chabot, à la semaine prochaine.